Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Avec Brice Couturier, bien sûr. Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors, depuis le début de cette semaine, vous nous parlez de smartphone. L'apparition du smartphone a modifié nos manières de vivre, de percevoir le temps. Vous nous en avez déjà parlé en début de semaine. Mais dans certains pays en développement, ces nouveaux outils ont aussi permis une augmentation spectaculaire de la productivité. En Afrique, par exemple, le mobile permet d'apporter des services bancaires, médicaux, administratifs, y compris dans les zones rurales.
Oui, et l'Afrique, il faut le savoir, est le deuxième marché mondial pour la téléphonie. On estime que cette année, le nombre d'abonnements au mobile sur la planète entière devrait dépasser les 7 milliards. Plus de la moitié ont été souscrits en Asie et en Afrique. Cela aura un impact décisif sur la croissance, déjà brillante dans des pays comme la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Mozambique ou le Rwanda, la Tanzanie aussi. Selon les études de la Banque mondiale, une pénétration de 10% du haut débit dans un pays en développement se traduit par une augmentation du PIB de l'ordre de 1,4%. Et pourtant, le débat fait rage en ce moment dans les pays développés, cette fois entre techno-optimistes et techno-pessimistes. La querelle tourne autour d'un fait incontestable, mais difficile à expliquer. Comment se fait-il que la vague d'innovation spectaculaire que nous connaissons ne se soit pas traduite par une augmentation de la productivité ? Car la productivité qui avait fait des bonds jamais vus dans l'histoire de l'humanité entre 1850 et 1970 stagne depuis 2008. C'est comme si la crise financière avait brisé un des ressorts de l'enrichissement collectif de cette époque bénie. En Amérique du Nord, en Europe, la valeur ajoutée par rapport au nombre d'heures travaillées ne progresse plus que très faiblement. En Amérique latine aussi, elle stagne et le Japon a été la première économie à souffrir de cette étrange léthargie dont nul ne comprend bien l'origine et qui apparaît très difficile à combattre. Ce pays a pourtant été à la pointe de l'innovation. Alors le célèbre économiste Larry Summers en a tiré la prédiction devenue fameuse d'une stagnation séculaire des économies anciennement développées. Pour cet ancien secrétaire au trésor de Bill Clinton et ancien président d'Harvard, nos économies avancées sont promises à plusieurs décennies de surplace économique. Nos pays font face à un sous-investissement chronique et notre main-d'œuvre vieillit. Cela ne peut que plomber notre croissance potentielle. Alors Nouriel Roubini, qui est un des oracles de la science économique, sa notoriété est fondée sur le fait qu'il est l'un des très rares économistes au monde à avoir prédit de manière détaillée la crise de 2008, à avoir identifié sérieusement ses causes et annoncer ses effets. Roubini, donc, fait plutôt partie des techno-sceptiques que des techno-pessimistes. D'un côté, dit-il, nous constatons tous la très faible croissance de la productivité des économies du Nord. Elle est incontestable. De l'autre, des gourous comme Erik Brynjolfsson, dont je reparlerai demain, nous disent que nous vivons une ère de progrès technique digne de celle qu'ont connue nos ancêtres lors de la révolution industrielle. Pourtant, constate Roubini, il y a des secteurs où ces innovations promises sont bel et bien déjà en route et on ne les perçoit pas toujours. C'est le cas de l'énergie, avec les réseaux intelligents, les progrès extraordinaires dans les renouvelables ou dans le stockage. Ce sont les biotechnologies, avec tout ce qu'on peut attendre des thérapies géniques, de l'utilisation des données. Ce sont bien sûr les technologies de l'information, celles que nous connaissons le mieux, avec création d'applications à jet continu pour nos smartphones, big data, internet des objets, intelligence artificielle. Dans le domaine de la production, ben c'est la robotique, l'automatisation, les imprimantes 3D. Mais on oublie souvent d'ajouter à cette liste les techniques financières, d'une part, et de l'autre, les systèmes destinés à la défense, dont l'effet d'entraînement sur les autres activités peut se révéler immense.
Mais alors pourquoi, Brice, toutes ces belles innovations ne sont-elles pas traduites par une augmentation de la production par heure de travail ?
Eh bien, les pessimistes, comme Robert Gordon, nous disent « l'impact de ces innovations sur l'économie, en réalité, est très faible. Elle ne saurait en tout cas se comparer avec ce qu'ont apporté en leur temps à l'industrie le moteur à combustion interne ou bien l'électricité. Ni le smartphone et ses applications avec des découvertes comme celles de l'automobile, du téléphone, de l'avion ou de la télévision. D'autres nous jugent tout simplement trop pressé. Les avancées technologiques en cours de développement ou d'application n'ont pas encore eu le temps de révolutionner le monde du travail, disent-ils. Mais elles vont se traduire par une baisse spectaculaire des coûts de production qui se répercuteront inévitablement sur les prix à la consommation. Le temps qu'une innovation produise ses effets sur la productivité peut simplement être long, avertissent ces économistes. Patience, le meilleur reste à venir. En attendant, écrivent plusieurs commentateurs, les politiques, eux, vont avoir à gérer des populations de plus en plus impatientes de voir, comme aux États-Unis, une minorité s'enrichir dans des proportions considérables, tandis que stagne ou s'amenuise le pouvoir d'achat de la majorité. L'adoption des nouvelles technologies, fait remarquer par exemple Danny Roderick, professeur à Harvard, a eu pour conséquence d'aggraver considérablement les inégalités de revenus. Elle favorise les ultra-qualifiés qui bénéficient des fantastiques opportunités que leur offre à eux la mondialisation, mais elle prive de leur emploi les peu qualifiés victimes de cette même mondialisation. Cette dispersion des revenus est l'un des inconvénients du deuxième âge de la machine, comme le reconnaissent les auteurs de ce livre, du livre qui porte ce titre. Et si vous le voulez bien, Florian, nous en parlerons demain.